Говорит Москва.
Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver. Je vous avais promis un podcast mensuel et chaque fois que l'actualité l'exige, et là il me semble effectivement que l'actualité l'exige. Par conséquent, nous allons donc parler évidemment de ce qui s'est passé ces derniers jours en Iran. Alors tout d'abord, beaucoup s'y attendaient, hein, des gens comme Scott Ritter par exemple avaient dit que voilà, les États-Unis allaient tôt ou tard frapper. J'en ai acquis la totale certitude quand j'ai entendu parler de cet incident, vous savez, où un type aurait été abattu après s'être introduit dans la villa de Trump à Mar-a-Lago. Alors, Trump n'était pas à Mar-a-Lago, il était à la Maison Blanche. Et donc un type est rentré, apparemment armé, s'est introduit, aurait été abattu, on n'en sait pas vraiment grand-chose. Moi, ce que je sais, c'est que c'est un message. Alors, ça c'est ma théorie personnelle, hein. Depuis le début, Trump joue sa vie dans cette histoire, c'est-à-dire que l'État d'Israël et la communauté juive américaine a été extrêmement hostile à Trump tout au long de ses diverses campagnes, y compris d'ailleurs de sa première campagne. Ils lui ont été hostiles au moment de sa lutte pour faire reconnaître que l'élection de 2020 avait été volée. Ils lui ont été ensuite très hostiles, tous les médias, etc., lui ont été extrêmement hostiles au moment de sa seconde campagne pour 2024. Et je pense que ces gens ne se sont pas tout d'un coup, comme ça, en claquant des doigts, retournés en disant « Voilà, maintenant il est élu, on va... » voilà. Non, je pense qu'ils n'ont pas pu empêcher l'élection de Trump. Ils ont donc l'intention de le contrôler par la force et par la menace. Je l'ai dit dans plusieurs articles ici. Je pense que... lors de sa première visite à la Maison Blanche après la nouvelle élection de Donald Trump, Benjamin Netanyahou est venu avec comme cadeau des beepers en or, les mêmes beepers que le Mossad avait utilisé, le Mossad et la CIA, de toute façon c'est la même chose. Tout ça roule ensemble. Le Mossad avait utilisé pour éliminer un certain nombre de dirigeants religieux, musulmans, que ce soit Hamas, Hezbollah, etc., hein, que ce soit Ismaïl Haniyeh, Nasrallah, etc., etc. Donc le message était très clair, hein, quand votre meilleur ami arrive et vous offre une balle de revolver en or gravée à votre nom, en général vous comprenez le message. Donc depuis le début, Donald Trump gouverne les États-Unis et établit sa politique avec un pistolet sur la tempe. Il est sous occupation, en réalité. C'est-à-dire que je ne sais plus qui c'est, je crois que c'était Mersheimer, je ne sais plus qui disait de toute façon, ce n'est pas les États-Unis qui déterminent la politique étrangère d'Israël, mais Israël qui détermine la politique étrangère des États-Unis. Moi, je pense qu'ils en déterminent aussi la politique intérieure. Toujours est-il que ça ne faisait aucun doute pour les observateurs que les États-Unis allaient tôt ou tard frapper l'Iran, y compris alors que des négociations étaient en cours. Alors les négociations, elles portaient sur quoi? Elles portaient sur deux éléments essentiels, à savoir l'arme, donc le fait que l'Iran se dote ou non de l'arme nucléaire, et sur les questions des missiles balistiques. Alors, il faut déjà prendre en compte une chose, c'est qu'il y avait eu un accord sur le nucléaire en Iran, accord que les États-Unis ont, dès l'arrivée de Trump, lors de son premier mandat, ont immédiatement dénoncé. Donc, ce ne sont pas les Iraniens qui n'ont pas respecté leurs engagements, mais ce sont les États-Unis qui ont décidé que cet engagement n'avait plus cours. Or, beaucoup de gens considèrent que l'Iran, pour diverses raisons, ne devrait pas se doter de l'arme nucléaire, n'aurait pas le droit de se doter de l'arme nucléaire. Or, moi, je ne vois pas pourquoi. La France, la Chine, la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël pourraient se doter de l'arme nucléaire, auraient droit de posséder l'arme nucléaire, et l'Iran n'y aurait pas droit. D'autant que l'Iran est situé proche d'un état nucléaire, à savoir Israël, qui s'est doté de l'arme nucléaire dans des conditions extrêmement douteuses. Je ne développerai pas ici, mais en tout cas, on peut douter de la légitimité et de la légalité avec laquelle Israël s'est doté de l'arme nucléaire. Donc, dans ces conditions, parce que il faut bien comprendre que si l'Iran avait été doté de l'arme nucléaire, jamais l'Iran aurait été frappé, même menacé. Jamais un porte-avions américain se serait rendu sur zone sans autorisation. Donc, à partir de là, personne n'embête la Corée du Nord. Hein. Tout le monde gueule, mais personne l'embête. Hein. Parce qu'on sait très bien que la Corée du Nord, si quelqu'un venait à frapper la Corée du Nord, eh bien ça aurait des conséquences très très graves pour le Japon. Et il faut aussi reconnaître autre chose, c'est que la Corée du Nord, qu'on n'est pas obligé d'apprécier, n'a jamais menacé personne. De même que l'Iran ne menace actuellement personne. Alors, ceux qui disent que l'Iran n'a jamais menacé personne, c'est pas tout à fait vrai parce que on se souvient dans les années 80 des attentats. On se souvient, personne n'a oublié Vahid Gorgi, personne n'a oublié l'attentat contre Chapour Bakhtiar sur le sol français, etc., etc. Mais enfin bon, ça c'est des choses qu'on a, c'est des choses que enfin la politique étrangère de la France a un petit peu provoqué, parce que si la politique étrangère si la France n'avait pas favorisé le retour de l'ayatollah Khomeini, on n'en serait peut-être pas là. Hein. Il faut bien comprendre. Alors, faut comprendre une chose, c'est que la France a favorisé le retour et a organisé le retour de l'ayatollah Khomeini en Iran et l'a protégé, etc. A organisé en réalité le changement de régime sur ordre des États-Unis, bien entendu. La France n'aurait pas de son propre chef, donc sur ordre des États-Unis. Donc les États-Unis ont organisé le changement de régime Mossadegh, le Shah, et puis le Shah et les Mollahs. Donc si les Mollahs sont en place aujourd'hui en Iran, c'est largement de la faute des États-Unis. Bon, je mets fin ici à la digression pour dire que, en tout cas, voilà, la situation actuelle au Proche-Orient est le résultat d'une politique étrangère américaine absolument calamiteuse. Et c'est donc dans ces conditions que les États-Unis et un certain nombre de pays, dont la Russie, pour différentes raisons officielles, mais la Russie y est aussi opposée, donc les États-Unis et un certain nombre d'autres pays sont opposés au fait que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Bon, comme je l'ai dit, si l'Iran avait été muni de l'arme nucléaire, aujourd'hui l'Iran serait tranquille et l'école qui a été frappée avec, je crois qu'il y a eu 85 enfants hein, qui sont morts, c'est quand même pas rien. Alors ça serait Poutine qui aurait fait une chose pareille, là on aurait eu des images en boucle et de l'indignation en boucle. Là, l'indignation est quand même tout à fait, comment dire, tout à fait sélective. Hein. Quand c'est Israël, c'est pas grave, en gros. Alors maintenant, que peut-il se passer ? Ben, bien malin qui pourrait bien sûr le dire. Alors certains disent que d'abord l'Iran a des moyens. Et que Israël ne peut pas être sur tous les fronts et que les États-Unis ne peuvent pas non plus être sur tous les fronts. Cela dit, il y a quand même un facteur assez déterminant, c'est que va se retrouver au pied du mur le fameux monde multipolaire, à savoir les BRICS, puisque l'Iran aujourd'hui compte bien sur notamment l'aide de la Russie, mais encore plus de la Chine, qui elle-même compte bien sur le pétrole iranien. Donc vous savez que le détroit d'Ormuz a été fermé, que vous allez payer, mes agneaux, votre essence, et c'est bien fait pour vous, vous aviez qu'à pas voter Macron, que vous allez payer votre essence 2 euros. Au minimum, c'est-à-dire que ça va devenir vraiment très très cher de rouler en voiture. Alors, c'est pas gênant puisqu'on a décidé que vous deviez rester chez vous maintenant, hein, parce que attendez, c'est pas, pardon pour la digression, mais c'est pas pour vous faire économiser de l'argent ou pour vous faire polluer moins, parce que ça pollue plus, qu'on vous fait rouler en voiture électrique. Non, on vous fait rouler en voiture électrique pour que vous alliez moins loin et pour que vous soyez moins mobile. Et c'est tout. Donc il y a des articles sur le blog à ce sujet. Je ne peux que vous encourager à vous y référer. Toujours est-il que le marché du pétrole va être désorganisé. Entre parenthèses, tout ça c'est très bon pour la Russie, hein, parce que le pétrole, plus le pétrole rapporte, moins il coûte cher à son extraction, plus c'est intéressant d'en extraire. Donc tout ça, à mon humble avis, ne pourra être que bon pour la Russie, qui a besoin du pétrole pour son effort de guerre en Ukraine. Tout ça est bien évidemment lié. Alors que peut-il se passer ? Ben, militairement, on n'en sait rien. L'Iran a des moyens de riposter, c'est certain. Ils le font déjà. Est-ce que Israël a les moyens d'un nouveau front ? C'est quelque chose qu'il faudra voir. En réalité, on ne le sait pas. Les gens qui vous disent, ouais, aujourd'hui, on sait que l'armée est exsangue, on sait qu'ils n'ont plus de munitions, on sait ceci, on sait cela. Ils sont affaiblis, ça c'est sûr, puisque bon, les États-Unis ont vendu à l'Ukraine, aux Européens, des missiles, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés. Après, les observateurs qui vous disent ils ont ceci, ils n'ont pas cela, on verra. Tout ça relève du secret militaire, donc les quantités, l'état des lieux, tout ça, on ne le connaît pas. On sait que l'armée américaine est de toute façon bien malade, c'est-à-dire que, évidemment, à force de faire de la discrimination positive au bénéfice des. Comment je peux dire pour pas avoir d'emmerde? Des obèses, des noirs, des lesbiennes et tout ça. Et évidemment, au bout d'un moment, bah, tout ça sont des facteurs d'affaiblissement. Certains, est-ce que ça suffit pour perdre une guerre à court terme? Parce qu'à long terme, les Américains et Washington et Tel Aviv ont déjà perdu, en réalité. De toute façon, en réalité, les Américains ont perdu absolument partout. Ils sortent toujours perdants. Ils sont sortis perdants à Cuba, ils sont sortis perdants au Vietnam, ils sont sortis perdants en Afghanistan, en Irak, et maintenant, en Iran, à terme, ils sortiront perdants. Mais ils auront entre-temps semé le chaos parce que, en réalité, les changements de régime opérés par les États-Unis, c'est toujours le chaos. C'est-à-dire que je voudrais pas qu'on croie que je suis spécialement attaché au régime des mollahs. C'est pas la question. Les mollahs, je m'en fiche un peu. C'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce qui se passe chez moi. Mais je suis pas en train de dire que j'aimerais vivre sous un régime islamique rigoriste. Ça, c'est pas du tout le cas. Donc, je suis pas spécialement défenseur de ça. En revanche, je dois constater qu'aujourd'hui, le régime iranien, nord-coréen et autres, et cubain, eux ne se mêlent pas de nos affaires. Alors que les Américains et les Israéliens, eux, se mêlent de nos affaires. Et ça, ça me déplaît beaucoup. Parce que quand c'est Tel Aviv qui décide chez moi, ben c'est pas la France. Et c'est pas la Suisse non plus. Donc tout ça est un véritable problème. Alors, comment les choses peuvent finir et quelles sont les capacités militaires réelles des uns et des autres? En réalité, on n'en sait rien et croyez modérément ceux qui vous disent qu'ils le savent. On verra. L'histoire le dira. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à terme, tout ça, effectivement, n'est pas viable. Et je pense que les Américains et les Israéliens vont devoir plier boutique. Alors certains sont en train de dire, oui, mais de toute façon, ça c'est les doctrines Cossette, effectivement... Trump embarque les Israéliens dans ce genre d'aventure pour les faire s'écrouler. Eh bien, écoutez, l'avenir le dira. En tout cas, je ne vous cache pas que j'ai été très circonspect et concis dans l'écoute des médias mainstream parce que les médias mainstream ne présentent que le point de vue d'Israël et au bout d'un moment, c'est pénible. L'exemple, hein, c'est l'école. Donc, les Israéliens ont balancé une bombe sur une école. Il y a eu 85 morts. Ça aurait été Poutine. Ça aurait été évidemment tout de suite. Je pense que la Commission européenne se serait réunie en urgence pour voter un 281e paquet de sanctions. Non, 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 c'est normal. Mais c'est pas pareil. Eux, ils ont le droit. Ils ont beaucoup souffert. Voilà. Ce qui nous amène à ma conclusion, je le dis tant que la loi m'autorise à le dire, l'État d'Israël n'est plus viable. Il faut en... Alors, la solution à deux États ne l'a jamais été viable. C'est-à-dire que la solution à deux États, un État palestinien, un État israélien vivant côte à côte, de façon en bon voisinage et en toute amitié, bon, ça, je veux dire, il faut croire à la poupée qui tousse ou au Père Noël. Hein, c'est ridicule. Donc ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche tout simplement pas. Et ça ne se fera jamais. D'accord? En revanche, moi je suis pour la solution à un État. Mais à un État palestinien. D'abord parce que, contrairement à tous à tous ceux qui sont arrivés de Pologne, de Biélorussie ou du Maghreb pour voler des terres. Les Palestiniens, eux, sont chez eux. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, il serait tout à fait possible, en revanche, de mettre en place un État de Palestine démocratique, c'est-à-dire où le peuple se choisirait des dirigeants et où vivraient des Arabes et des Juifs côte à côte. Ça, c'est possible. Mais un État d'Israël, c'est-à-dire un État suprémaciste, un État raciste et suprémaciste et génocidaire en plus, juif, n'est pas viable et on peut comprendre les populations locales qui n'en veulent pas. Voilà. En conséquence, je pense que aujourd'hui, la solution à deux États n'est pas viable, comme je l'ai dit et je le répète. Je le dis tant qu'on a le droit de le dire. En revanche, un État palestinien qui serait de toute façon multiconfessionnel, parce que le Proche-Orient est une région compliquée. Et donc un État qui serait pluriconfessionnel avec des chrétiens, des juifs, des musulmans, étant donné les mouvements de population qui seraient aussi pluriethniques, ça serait peut-être possible. Au bout d'un long processus, sans aucune espèce de doute, mais ça serait en tout cas possible. Je le dis tant que je peux le dire, puisque les pays européens, dont la France, ont l'intention de faire passer des restrictions relatives à la liberté d'expression, où bientôt l'antisionisme sera assimilé à l'antisémitisme. Je pense que dans peu de temps, c'est le principe de la fenêtre d'Overton, hein, dans peu de temps, je pense que simplement dénoncer. Critiquer, même pas dénoncer, critiquer le gouvernement israélien sera assimilé à de l'antisémitisme. Donc, vous voyez, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et surtout chez les donneurs de leçons de la liberté d'expression. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour ce soir concernant l'état des lieux en matière de ce qui se passe, enfin, au sujet de ce qui se passe au Proche-Orient. Affaire à suivre. Tout ça est en tout cas bien malheureux pour moi. C'est un week-end vraiment, vraiment très triste parce que là-dedans, il y a des populations qui sont prises en otage et qui ne demandent qu'à vivre normalement et qui n'ont rien fait. Et on ne peut que le déplorer. Vous le savez, hein, les partisans du régime en place, tous ceux qui ont frayé avec Epstein et tout, souhaitent que vous ne fassiez pas connaître ce podcast. Donc, si vous voulez leur faire plaisir, bien surtout, ne faites pas connaître. Ne le faites pas connaître sur vos réseaux. Ne le faites pas connaître autour de vous, à vos amis. Ne vous abonnez pas parce que vous risqueriez de ne rien rater, donc des articles apparaître et tout ça. Donc, ne vous abonnez pas et ne soutenez pas ce blog subversif. Allez, je vous embrasse. Salut. Thank you.